Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui font vivre la philosophie. Philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les idées et quel rôle les philosophes doivent-ils jouer dans la cité? Mon invité aujourd'hui est l'auteur d'une thèse sur Merleau-Ponty. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la République, l'école, la laïcité et la promesse. Il a été ministre de l'Éducation de 2012 à 2014 dans le gouvernement Jean-Marc Ayrault. Et si l'on ouvre la trappe qui conduit vers les voies qui habitent sa mémoire et son imaginaire, on entend ceci.
Mesdames, messieurs,
puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être importun?
Pose pas de questions, réponds.
Si, comme on peut le penser...
Je crois être... un homme d'aujourd'hui.
Et j'en tire les conclusions.
Renouvellement et rupture.
Je veux me retirer, j'en ai marre.
Mais en même temps...
Vous avez de la chance. Il n'a pas grogné.
Bonjour Vincent Payon.
Bonjour.
J'espère que vous non plus, vous n'allez pas grogner.
Oh non, pas du tout.
Bienvenue en tout cas sur les chemins de la philosophie. Est-ce que je vous présente comme philosophe, Vincent Payon?
Je crois pas. Parce que, en France, on est professeur de philosophie. On fait des études de philosophie, on devient professeur de philosophie. Bon, pour moi, le philosophe, c'est quand même quelqu'un qui a soit un système, comme on disait autrefois, soit un propos philosophique, une philosophie, dans le fond. Moi, c'est pas mon cas. Je dirais plutôt, peut-être, historien des idées, un peu historien de la philosophie au début. Vous avez parlé de mon temps sur Merleau-Ponty, et puis... qui va me revenir. Je fais l'histoire de la philosophie. Je suis très attaché d'ailleurs à l'école française d'histoire de la philosophie. Mais je dirais que depuis 25 ans, c'est plutôt une discipline qui existe assez peu en France, qui est l'histoire des idées.
Ah, l'histoire des idées, je pensais parler de la philosophie.
Non, l'histoire de la philosophie. Mais on a du mal en France à faire une histoire des idées, un peu contextuelle. Moi, je suis... très attaché aux travaux que font les gens comme Quentin Skinner, à essayer de... Donc j'ai beaucoup travaillé sur le 19e siècle, en fait. Je suis remonté du 20e au 19e siècle, et je pense que je pratique une forme, disons, d'histoire des idées. C'est plus modeste, et ça correspond plus à mon travail quotidien.
Et quel serait l'angle de votre pratique de cette histoire des idées, s'il devait y avoir un thème, un concept autour duquel s'articule votre travail?
Mais je crois qu'en fait, j'ai toujours fait la même chose. Lorsque, et en philosophie française, je me suis intéressé à Merleau-Ponty, c'est l'époque où on considérait qu'on devait tout à l'Allemagne. À Husserl, à Heidegger, et que la phénoménologie française, la philosophie française était allemande. J'espère avoir un peu contribué à l'idée que si on voulait comprendre cette philosophie française, il fallait s'attacher à la réenraciner dans un sol, on va dire français, Braunschweig, Bergson, et au-delà une tradition qui est celle du 19e. Donc, il y avait là une affirmation qui avait une pensée oubliée dont il fallait reprendre connaissance. Mais l'histoire, c'est ça, dans le fond. Hein, le passé change toujours, et il y a les oubliés, il y a les vaincus de l'histoire, et le travail de l'historien est d'essayer de leur redonner voix. Mais ce que j'ai fait, dans le fond, en philosophie politique, ou ce qu'on appelle le républicanisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai finalement été très marqué dans ma jeunesse par le fait que le socialisme était soi-disant allemand, marxiste. Et j'ai contribué, enfin j'espère, à avoir fait découvrir qu'il y avait avant 1905 un socialisme français, même avant le socialisme allemand, puisque les Allemands étaient venus, dont Marx, dans les années 40-48 en France, et que ce socialisme était très loin, parce qu'évidemment il y a des enjeux intellectuels et même politiques dans tout ça, mais que c'était un socialisme libéral, un socialisme spiritualiste, un socialisme individualiste, et toute une tradition qu'on a aussi dans la pensée républicaine ou dans la pensée politique française oubliée. Donc finalement, quand je regarde avec un petit peu de recul, maintenant 30 ans, les deux endroits où je suis allé, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire j'ai essayé de faire revenir vers les auteurs français, une tradition française, d'un côté de Maine de Biran à Bergson, et puis les soubassements, là il faut que je continue, et puis de l'autre côté, ce qu'on a appelé les socialismes de 48, ou le républicanisme, je pense à Ferdinand Buisson, ou un certain nombre d'autres auteurs. En ce moment je travaille sur le judéo-républicanisme, qui est très méconnu, les auteurs sont même inconnus, et donc cette espèce de travail qui consiste à vouloir, dans le fond, c'est ce que disait mon maître Vernant, contribuer à écrire autrement l'avenir, mais en commençant, vieille affaire, en écrivant autrement le passé, puisque c'est lui qui va accoucher de cet avenir.
Alors on a 50 minutes pour déplier ces enjeux ensemble, Vincent Payon. D'abord, racontez-nous quelle est votre première rencontre avec la philosophie, si vous en souvenez.
Oui, je m'en souviens parce que j'ai la chance de venir d'une famille des deux côtés d'ailleurs, d'un côté de mes deux grands-mères, je n'ai pas connu mes grands-pères, donc d'un côté d'une famille juive, intellectuelle, relativement assimilée, comme on disait à l'époque, mais qui est une famille d'intellectuels. Mon arrière-grand-père était rabbin, mais derrière sont des professeurs, sont des chercheurs, et il y avait d'ailleurs déjà des gens qui faisaient de la philosophie. Et ma grand-mère m'éduque, elle me donne, je l'ai raconté déjà, le livre de Bergson sur le bon sens et les études classiques quand j'ai 10 ans. Et elle me racontait, cette grand-mère, la fierté de sa vie, c'était qu'à la maison venaient Léon Robin, Gobelot, qu'on a un peu oublié, mais je le conseille souvent encore à des jeunes étudiants, parce que son traité de logique permet d'être bon en épistémologie. Donc il y avait un très grand respect, très grand amour de la France, très grand amour de la République, mais un très grand respect pour le travail intellectuel. Et de l'autre côté, du côté de mon père, c'était la même chose. Et comme dans leur milieu, j'ai eu la chance de rencontrer en particulier un très grand ami de la famille, mais enfin plusieurs, mais un qui a beaucoup compté pour moi, qui est Jean-Pierre Vernant. En fait, très jeune, je me suis jamais posé dans le fond cette question, parce que ça a été très tôt. J'ai lu très tôt, j'ai toujours lu, et j'ai toujours voulu, je sais pas si c'est la vocation, mais ressembler à ces gens-là, et peut-être, c'est un concept cartésien assez difficile, j'avais beaucoup d'admiration pour eux.
Qu'est-ce qui vous attirait chez eux? Pourquoi vous êtes comme eux?
Alors, il y a des choses différentes. Il y a deux personnalités. Il y a une personnalité très emblématique. Si vous lisez la statue de sel d'Albert Memmi, vous trouverez un personnage qui est le prof de philo, qui s'appelait Aimé Patrick. J'ai connu, c'était le père d'un copain de lycée. André Breton l'appelait Clé d'or. Si vous lisez le Tractatus de Wittgenstein, vous verrez les notes sont signées par lui. Son meilleur ami était Klossowski. J'ai eu la chance, c'était un homme assez âgé quand j'étais en sixième, j'allais dans son appartement du boulevard Montparnasse, et là, c'était le philosophe, je dirais, encyclopédique. Il avait été trotskiste dans les années 30, il connaissait l'histoire du marxisme, du trotskisme, et en même temps, Bertrand Russell était son meilleur ami. Et donc, il y avait 10 000 volumes chez lui, la bibliothèque a été vendue après. Et là, je me disais, c'est extraordinaire, cet homme avec qui on peut parler de tout. Il va m'expliquer les relations d'incertitude d'Heisenberg, et puis après, on va se dire pourquoi Trotsky... Ça, c'est une figure du philosophe avec en plus un immense plaisir à parler, à dialoguer, à se contredire. Et puis, il y avait l'autre figure qui est très différente, qui était la figure de Jean-Pierre Vernant, qui lui était m'impressionnait beaucoup, non seulement par sa qualité intellectuelle, par...
C'est surtout historien, d'ailleurs, Jean-Pierre Vernant.
Major de la grecque de philo, philosophe. Les deux frères Vernant sont philosophes. Mais de cette époque où Merleau, qui rédige sur la grecque de philo en 38, dit il faut que les philosophes aillent sur d'autres terrains. Les grands philosophes d'avant-guerre, c'est Lévi-Strauss, c'est Vernant, c'est Raymond Aron. C'est eux les premiers de la classe. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent il faut qu'on sorte du néo-kantisme français. Et donc il faut qu'on aille dans des champs d'empiricité. Alors vous aviez aussi la science... c'est-à-dire d'Anguilhem, c'est-à-dire il faut qu'on aille sur des terrains, les mathématiques, la biologie, puis vous avez l'ethnologie, vous avez l'histoire, etc. Mais Vernant avait été en plus un homme d'une générosité extraordinaire et avait été un très grand résistant très jeune. Et donc c'était une deuxième figure du philosophe, un philosophe engagé, puissant, charnel. Et donc ces deux personnages très différents, avec vraiment deux images du philosophe.
Lequel êtes-vous devenu?
Ni l'un ni l'autre, je vais essayer d'être moi-même. Mais, et d'ailleurs, ils enseignaient ça d'une certaine façon.
Tu es inspecteur des colonies? Tu es journaliste? Non? Alors qu'est-ce que tu es?
Quelqu'un est venu s'inviter à cette table pour vous poser une question, Vincent Peillon, vous l'avez reconnu?
Non.
Maurice Merleau-Ponty.
Ah oui.
À qui vous avez consacré votre thèse, n'est-ce pas? On a de la chance qu'on a des heures de conversation radiophonique de Maurice Merleau-Ponty avec Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, mais aussi tout seul. Il vous pose une question, t'es inspecteur des colonies, t'es journaliste, non, alors qu'est-ce que tu es? Pour vous, la question se pose particulièrement, alors pour tous les philosophes qui peinent à définir ça, quoi consiste la philosophie. Mais vous avez aussi, vous avez eu un engagement politique, Vincent Peillon. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Que reste-t-il de cet engagement politique?
Vous savez, la politique, j'ai toujours écrit dans mes livres, j'ai toujours pensé ça, la politique, elle peut être, moi, les hasards de la vie m'ont amené à faire de la politique au sens du mandat parlementaire, de la bataille dans les partis. J'ai toujours considéré qu'un professeur, une infirmière, un journaliste fait aussi de la politique, il est dans la cité, il s'engage. Mon modèle était plutôt socratique, celui qui vient interpeller, ça me semble ça être la position du philosophe, celui qui vient interpeller les puissants, que ce soit les puissances économiques, les puissances politiques, celles du pouvoir, les puissances intellectuelles aussi. Donc un questionnement que reprend Merleau d'ailleurs dans l'éloge de la philo, dans sa leçon inaugurale, où il dit d'ailleurs attention au philosophe en politique, parce qu'il peut toujours trahir, parce qu'il recherche la vérité. Je crois que la pensée de Merleau-Ponty était sur ce plan un peu plus complexe, mais on voit bien ce que ça veut dire. Moi, j'ai jamais pensé, et là vraiment, c'est très difficile de m'expliquer avec beaucoup de jeunes philosophes qui veulent s'engager. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout à cette théorie du surplomb. Je ne suis pas entré en politique comme philosophe. J'ai mis les mains dans le cambouis. Et quand je vois les philosophes, d'ailleurs, venir faire des leçons, ou les intellectuels, comme on dit, ça m'agace terriblement. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, je suis d'une génération. J'ai été élevé, justement, par ces gens dont je vous ai parlé, qui étaient communistes aussi, il faut le rappeler. Jean-Pierre Vernant, il n'a jamais considéré que c'était parce qu'il était major de l'agrégation qu'il devait monter un réseau de résistance. C'est parce qu'il avait des valeurs chevillées au corps qui faisaient que la France ne pouvait pas défaillir comme ça, et que les valeurs universelles... Mais après, ses copains, ils étaient cheminots, ils étaient menuisiers... Moi, j'ai toujours fait ça. Dès l'âge de 20 ans, j'ai été employé au wagon-lit, j'ai monté des sociétés. J'ai jamais eu envie d'être dans le, si vous voulez, de me restreindre à la profession universitaire.
Vous avez été entrepreneur avant d'être philosophe, avant d'être prof
j'ai
de philo.
Quand j'ai eu 20 ans, j'ai arrêté mes études de philo parce que je me suis dit, justement, il me manque quelque part... moi, je suis un grand lecteur, donc je passais ma vie à lire, et il me manque un rapport avec le monde, avec les autres. Il y avait un isolement, il y avait le poil, il y avait l'enfermement. Et donc, j'ai commencé par être employé au wagon-lit. J'ai fait le train Paris-Copenhague pendant quelques mois. Après, j'ai monté une entreprise d'import-export. Mais finalement, toute ma vie a été ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai beaucoup lu, lorsque j'ai beaucoup peut-être écrit, j'ai besoin de sortir dehors. J'ai besoin de m'alimenter d'autre chose. Et je ne crois pas, pour revenir à votre question, que la politique, ce soit l'intellectuel en politique. Moi, j'ai appris de la politique beaucoup. Au terme de 25 ans d'activité ou 30 ans d'activité politique, je trouve que des penseurs comme Merleau-Ponty, Claude Lefort, mais avant Machiavel, d'une certaine façon, lorsqu'ils parlent de la politique, la vraie, celle qui se pratique, effective, en parle bien, ont bien vu la spécificité du politique, qui n'est ni le religieux, ni la morale, ni le philosophique, ni le scientifique. Pour avoir pratiqué ça beaucoup, je trouve que ça a été assez bien pensé, dans le fond. Mais ça n'est pas une position de philosophe dans la cité. Si j'avais voulu, et je suis très exaspéré, pour vous dire la vérité, par les gens qui viennent, en tant qu'intellectuels, donner des leçons au bon peuple. Je trouve qu'à un moment, on relève les manches et on y va. Et là, on se rend compte ce que Merleau-Ponty a appelé le labyrinthe de l'action. C'est un labyrinthe. C'est que c'est très difficile. C'est très difficile. Que vaut la vérité, par exemple, en politique ? Si on élisait les gens qui nous disent la vérité, ça se saurait. Mais c'est quoi ce besoin de mensonge ? Et dans le fond, ce besoin de mensonge, il est aussi très humain. Et donc, on a tout un enchaînement de choses qui font que se confronter à cette conflictualité humaine... Ce que disait Merleau-Ponty, dans le fond, c'est ces consciences qui ne se voient pas telles qu'elles se voient elles-mêmes, donc il y a nécessairement du conflit. L'incompréhension permanente à laquelle on est livré quand on fait de la politique, je vois là avec l'incident de Rouen, la difficulté, ce rapport à l'opinion, la violence aussi dont on peut être surpris. Quand on est un professeur, dans le fond, j'ai toujours dit, et on fait pareil quand on corrige une copie, on est dans ce que Michel Foucault appelait le crédit de cohérence, ou la communion dans l'intention de vérité, disaient les anciens. C'est-à-dire, je considère qu'a priori, ce que vous dites est intelligent. Et quand je commente un texte, je vais aller chercher le maximum d'intelligence dans le texte. Ça, c'est une attitude humaine vis-à-vis de l'autre. Dans le monde politique, on vit exactement l'inverse. Les phrases sont tronquées, sorties de leur contexte, on vous fait dire des choses que vous ne pensez pas du tout, et on cherche toujours le plus bête dans ce que vous dites. Donc, mais je trouve que c'est la responsabilité, quelle que soit son origine ou son métier, etc., de se confronter à ça.
Merleau-Ponty vous accompagne encore ? Parce qu'on le sait peu, mais Merleau-Ponty est aussi l'auteur de textes politiques décisifs qui trouvent, une forme de juste milieu de théorisation qui revient rapidement des extrêmes et qui peut servir quasiment de viatique, voire de manuel en politique.
Oui, moi j'ai écrit 3 livres sur Merleau-Ponty, dont le dernier est encore, et je publie en janvier un recueil d'articles dans lequel nous avons fait un colloque l'année dernière sur Merleau-Ponty à l'École Normale Supérieure, où j'explique ça justement. Qu'est-ce que, en dehors de l'aspect qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire Merleau-Ponty dans le terreau français. Deuxième chose, c'était de comprendre la grande question pour lire Merleau-Ponty, c'était comment passe-t-il de la phénoménologie de la perception au visible et l'invisible, c'est-à-dire un premier, un deuxième. C'était la grande question que se posaient les lecteurs de Merleau-Ponty. Et j'espère, enfin je crois en tout cas, même si Sartre avait dit beaucoup de choses, même si Lefort avait vu des choses, moi je pense que l'évolution de Merleau-Ponty, elle passe par le politique. C'est sa méditation entre humanisme et terreur et les aventures de la dialectique, où il comprend qu'il n'y a pas dans le fond de coïncidence possible entre l'idéal et le réel, qui l'amène à la pensée interrogative. Lorsqu'il est phénoménologue, comme Husserl, il croit encore, c'est le présent vivant chez Husserl, qu'une coïncidence est possible entre la conscience et l'être. La pensée du dernier Merleau-Ponty, qui est une pensée justement où il ne peut pas y avoir de réponse à l'interrogation, est une pensée qui vient de l'aporie politique. Et je pense que c'est la méditation des brûlures de l'histoire, dans son cas, parce qu'on est dans l'histoire chaude, là, les procès de Moscou, tout ce qui suit.
Merleau-Ponty est stalinien jusqu'en 47.
Si vous voulez dire stalinien, ça n'a pas le même sens à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, disons que c'est compliqué parce que je ne dirais pas exactement ça. Si vous reprenez le premier numéro des Temps modernes, il est moins préoccupé. Il ne veut pas lâcher les communistes. Pourquoi ? Alors là, je vous rappelle une histoire qui est très actuelle parce que les gens font comme si on redécouvrait les choses. Mais la faillite qui amène à l'antisémitisme et à la question de 39, dont Merleau-Ponty dit qu'elle est la question la plus importante en 45. Vient de ce qu'on appelait déjà la crise du libéralisme. C'est la crise du libéralisme parce qu'il refuse de voir la violence, qu'il croit que tout peut se pacifier, qu'on peut dire les choses en même temps, qui conduit. Donc l'analyse que fait cette génération en 45, il voit bien les difficultés du marxisme, Merleau-Ponty les voit très tôt, il voit les difficultés du stalinisme, il est informé d'un certain nombre de choses, mais ils ont beaucoup plus que nous. Ils ont un sentiment de terrible, et d'ailleurs ils sont un peu injustes, ils sont injustes vis-à-vis de leur maître, de Braunschweig, de Bergson, ils ont le sentiment d'une faillite de la politique kantienne, de la politique morale, de la politique du sujet et de la politique libérale. Gaucher avait fait un livre sur la crise du libéralisme.
Marcel Gaucher.
Oui, Marcel Gaucher, mais il faut quand même dire aux gens, beaucoup de ce que nous vivons, parce que les gens, ultra-libéralisme, la crise du libéralisme, c'est quelque chose qui est récurrent. Si vous prenez des auteurs, prenons Rosenzweig dans le monde juif, Karl Barth dans le monde chrétien, ce sont déjà des gens qui réagissent après 14-18, comme Paul Valéry l'avait fait, sur la crise du libéralisme. Car c'est la période libérale d'avant 14-18 pour cette génération, y compris libéralisme dans le domaine religieux, etc., qui amène à la catastrophe d'abord de 14-18, puis après, on connaît la suite. Donc, je crois que Merleau-Ponty est surtout à ce moment-là obsédé, comme il n'est pas le seul, obsédé par cette question de comment peut-on éviter cette question dont il dit qu'elle est la principale, qui est la question de l'antisémitisme. 45.
On reste encore un instant en compagnie de Merleau-Ponty.
Nous ne sommes pas pour un pouvoir communiste en France. Mais il y a un anticommunisme que nous refuserons toujours. C'est celui qui consiste, en liquidant les communistes, à liquider, selon le mot de Malraux, l'espoir et l'effort de libération. Or, la restriction du droit d'association menace la libération du salarié. La ruse en politique coloniale menace la libération des peuples colonisés. La confiance exclusive dans l'appareil militaire, le bonapartisme, le consentement par avance à la guerre menace la liberté de tous les hommes. Il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis pour savoir qu'on commence par poursuivre les communistes et qu'ensuite on s'en prend à ceux qu'on appelle les rouges et qu'enfin on s'attaque à toute la gauche.
La question que se pose Maurice Merleau-Ponty dans cet archive de 1947, Vincent Payon, au fond, c'est là où vous avez raison sur le début des crises du libéralisme, etc., c'est qu'on pourrait la poser différemment aujourd'hui, mais en fait c'est l'identité de la gauche qui est en jeu déjà.
Si vous voulez, c'est l'identité de la gauche, mais à mon avis ça va très au-delà de la gauche. C'est vraiment l'identité, c'est la question démocratique. Prenez la question des USA qui soulève, et du colonialisme qui revient, on voit comment le refoulé revient, mais c'est quand même une vraie question, encore aujourd'hui. Prenons l'Argentine, dont on parle à nouveau avec les difficultés. L'Argentine, les USA qui sont nos amis, les pays de la liberté, il n'y a pas de problème, très bien, Tocqueville, la révolution américaine, tout ce que vous voulez. Mais ils ont quand même, ils sont intervenus en Argentine, comme vous le savez, pour soutenir les anciens nazis qui liquidaient des populations entières. Bon, donc le combat du bien contre le mal, c'est d'ailleurs une des difficultés pour les nouvelles générations, le combat du bien contre le mal, que ce soit le bien américain contre le mal soviétique ou vice-versa, bon, je crois que il faut une pensée plus critique. Ce que j'aime chez Merleau-Ponty quand même, on avait ça chez Raymond Aron d'une autre façon, mais ce que j'aime chez Merleau-Ponty, c'est que je crois qu'il, justement, on l'a un peu entendu là d'ailleurs, il ne tombe pas dans ses simplifications. Il voit bien, il essaye de maintenir une exigence de pensée critique dans un camp, il s'est fait, vous savez, ça a été très difficile, la rupture avec Sartre et avec les communistes. Il faut voir les textes de Garaudy, il y a un texte incroyable, ils ont fait une réunion, où il disait d'ailleurs, c'est le philosophe demain d'Est-France. Car il faut que vous sachiez que Merleau-Ponty, jusqu'au bout, cherche où il peut aller en politique avec sa pensée. Et il accompagne l'aventure qui est l'aventure de Mendès-France. Et Garaudy, les communistes, qui avaient fait, je crois, en 56 ou 57, une grande réunion à la Sorbonne pour dénoncer Merleau-Ponty, les mésaventures de l'antimarxisme, disait c'est la métaphysique du mendésisme, qui était pour eux une injure totale. Et ils ont rejoint, à ce moment-là, Merleau-Ponty fait un texte assez tardif, c'est Mendès qui lui demande de justifier son adhésion au Parti Socialiste Autonome et au Parti Socialiste. Et donc, Merleau-Ponty conjoint l'idée d'un nouveau libéralisme, ce qu'il appelle un nouveau libéralisme, un républicanisme au sens du travail qu'il avait fait sur Machiavel, que reprendra Le Fort. Donc, républicanisme, nouveau libéralisme et socialisme doivent marcher ensemble. On est en 1960. Ça, je pense que ça reste vrai, ça me convient très bien.
C'est une émission de philosophie, on est là pour parler de votre métier aussi de philosophe. Voici une autre question, c'est Jean Kilevitch qui vous la pose.
La philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir?
Vous avez une réponse à cette question, Vincent Payon?
J'en ai beaucoup. Moi, je viens, comme on a parlé de Jean-Pierre Vernant, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un lien indéfectible entre la démocratie et la raison philosophique. Les origines de la pensée grecque et la naissance de la philosophie, c'est en même temps la naissance de la démocratie. Pourquoi ? Parce que c'est la nécessité d'argumenter ses positions et de rechercher la vérité à travers les méandres du langage. Qu'on voit tous les problèmes d'équivocité des mots, et donc on doit rechercher les essences des choses, donc la naissance de la science, pour savoir de quoi on parle déjà. Est-ce qu'on parle de la même chose? Et est-ce que nous savons de quoi nous parlons? Je pense qu'aujourd'hui, mais comme à chaque époque, le plus grave que nous vivons, c'est la crise de la raison. Toutes les périodes qui peuvent être sur le plan politique difficiles, et je pense que nous sommes dans une période comme ça, sont des périodes qui s'accompagnent d'un retour de l'opinion. Réaliser la bêtise n'est pas mon fort, mais d'une crise de la raison. Donc, la rationalité argumentative, formelle, ou la rationalité expérimentale, la demande de preuves, est absolument fondamentale dans la constitution de ce qu'a pu être une ère de démocratie, avec toutes ses régressions, tous ses défauts, etc., mais qui est notre ère française, occidentale, européenne. Et je crois que ça, ce fil conducteur, vous savez, Vernant disait la raison et la raison grecque est fille de la polis. Bon, ça marche dans les deux sens. Donc nous avons besoin. Vous avez mis la
police et la cité.
La cité, pardon. Oui, pas la police. Vous avez raison de. Et encore, on veut une police républicaine. Mais on a entendu Jospin à un moment.
Au tout début d'émission, ouais. Alors le mix proposé par Thomas Bout des différentes voix qu'on allait entendre.
Qui a compté pour moi parce que je trouvais quand j'ai commencé, et j'étais encore prof de philo quand j'allais m'occuper de ces affaires dans les années 95, qu'il avait une démarche qui pour moi, je le voyais faire parler les uns et les autres, essayer de construire des positions, respecter les points de vue des gens, qui était pour moi très philosophique. Et j'avais été, comme prof de philo en réalité, tout à fait interrogé. Séduit d'une certaine façon par cette pratique. Un bureau national du Parti Socialiste, vous aviez 50 types, de Mélenchon à Poprenne en passant par Rocard-Moroy, et un monsieur au centre avec ses cheveux frisés qui disait « Mais pour les retraites, par exemple, tu penses, mais pourquoi tu dis ça ? Donc les femmes ont, mais tu as un argument pour... ?» On faisait les réunions de 12 à 14 heures. Moi, j'étais un petit scribe, et je me disais, ça ressemble un peu à mon affaire de Socrate et à cette vieille tradition de gens qui ont quand même une exigence de vérité, une exigence de factualité, une exigence
donc,
de preuve.
Donc ça veut dire que la philosophie est par essence politique?
Elle est par essence politique. La philosophie l'a toujours été. Même la philosophie qui... Alors on pourrait... On manque de temps dans votre émission. Regardez, il faudrait
déjà,
parler.
On en prend pas
et c'est
mal.
Là qu'on en a
c'est
plus.
Vrai qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Mais
on pourrait parler de Descartes. Est-ce qu'il a... Descartes, le philosophe dont on pense qu'il n'est pas politique, est-ce qu'il y a une politique cartésienne? Dans mon dernier livre, je le montre. Descartes répond à Machiavel, dans le fond, puisque la princesse Élisabeth lui demande de lire Le Prince de Machiavel. Les philosophes en apparence les moins politiques peuvent être très politiques. Et moi, j'ai toujours pensé, c'est ce que dit Merleau-Ponty, il ne faut pas que le philosophe fasse de la politique.
fait de la très mauvaise politique. J'en sais quelque chose. Il ne faut pas que le politique fasse de la philosophie. C'est généralement assez... Mais il faut quand même qu'elles échangent à distance, d'une certaine façon. Il y a ce travail où, dans la retenue des deux, elle se féconde mutuellement. C'est toute la préface de Signe, ou à la fin de sa vie, c'est son dernier texte.
De Merleau-Ponty.
De Merleau-Ponty. Il essaye de théoriser ça. Ça, je le pense. Même la philosophie, en apparence la moins politique, est évidemment très politique.
Philosophie et politique qui se rencontrent dans votre tête n'excluent pas la présence de ce genre de choses.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Je n'ai pas tellement changé et je vois que de ton côté tu as bien traversé le temps.
Je voudrais que les auditeurs puissent vous voir, Vincent Peillon, voir votre sourire et ses yeux pleins d'émotion à écouter. Que sommes-nous en train d'écouter d'ailleurs ?
Ben, une chanson de Dalida que vous avez passée assez longuement, j'en suis très heureux, hein, parce que vous aviez des choix, vous m'aviez demandé plusieurs choses.
Ouais.
C'est de l'émotion pure pour moi. Alors, je trouve que ce texte est très beau, les chansons sont inégales, mais j'écoute beaucoup Dalida. J'écoute pas que Dalida, mais j'écoute beaucoup Dalida et je dois dire, c'est capable de me faire pleurer en 5 minutes. C'est quintessence d'émotion. Bon, les voix, j'ai choisi aussi Monteverdi, René Jacob, ça n'a rien à voir, mais les voix. Mais elle, pour des tas de raisons, et cette chanson en plus est très belle, parce que sur l'amour, qui comme disait Chardon, est toujours beaucoup plus que l'amour, c'est une très belle chanson, et peut-être qu'on se trouve encore plus belle quand on a quelques années plus que vous, comme moi.
Les chemins de la philosophie. France Culture, Adèle Van Rett.
Vous avez beaucoup insisté sur les liens entre philosophie et politique, et même vous avez affirmé que la philosophie est, selon vous, par essence politique. Quelle place faites-vous dans votre travail philosophique à la musique, à la littérature, aux autres formes d'expression de quelque chose, peut-être d'un sens, que la philosophie ?
Si je regarde maintenant en arrière, j'ai quand même été très monomaniaque. La philosophie, j'y suis un peu venu par l'écriture. Peut-être si j'avais pu être un grand écrivain, ça m'aurait satisfait. Je me suis amusé à écrire des romans policiers. Je suis un grand lecteur de romans. Et vous savez, il y avait ce passage, ces personnages. Moi, j'ai été très admiratif de Monsieur Tess, de Valéry, de Jean-Baptiste Clamence dans la chute d'Albert Camus. Le juge rédempteur, Mais ils m'ont conduit, dans le fond, à la philosophie. Et après, à part la vie d'action, la vie d'homme, de père, d'amant, de mari, et la vie politique, était quand même importante pour moi. Hein. Ça a été 30 ans d'action, l'enseignement aussi, et que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de philosophie quand je regarde. J'ai peu regardé les tableaux, j'ai peu écouté la musique. Mais bon, c'est comme ça. Et par contre, et ça continue d'ailleurs, je me lève tôt et j'ai toujours besoin de prendre un livre et de la noter surtout, d'écrire. Ça me rassure, ça me calme. Et plus les années passent, plus je jubile en lisant.
Il y a au moins un film que vous avez regardé, c'est celui-ci.
Alors, d'être parisien ?
Ah bah je veux, dis donc, j'en ai marre des voyages. La Chine, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, dis donc.
T'es resté longtemps, Zétain ?
Eh ben, mais pas de 10 piges.
Il a l'air mal, ton pote.
Ah, il se défend.
Dans quoi ?
La cam.
Ah, il en vend ?
Ouais, en gros. Là-bas, il marche avec le fameux Bigre Silo.
Tu sais pourquoi on est là, oui ?
Oui, lui, ce qui m'a passé un coup de fil.
Et tu sais qui tu remplaces ?
Ben, le Bosco.
Vincent Payon, je vous laisse le plaisir de dire le titre du film dont nous venons d'entendre un extrait.
C'est Razzia sur la Schnouf.
D'Henri Decoing.
Oui, d'Henri Decoing, mais c'est adapté de gens que j'adorais lire quand je vivais comme ça un peu plus dans la nuit, dans les trains. Et puis moi j'étais fasciné par le milieu des voyous, Pigalle.
Ah oui
Oui, j'ai toujours aimé cet argot français, puisqu'en fait derrière là vous avez Auguste Le Breton. Albert Simonin, moi j'ai beaucoup lu, quand j'ai écrit en fait le livre qui a été publié, le roman sur le nom d'Aurora, ça s'appelait La petite sirène de Copenhague, et c'est cette époque où quand vous êtes employé au wagon-lit, vous vivez la nuit. Donc après vous entrez dans une autre vie, puisque c'est des trains de nuit. Et ça oui, j'ai toujours eu aussi besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir ces respirations-là. Et tout ce milieu des voyous et cette langue française quand même, parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend d'ailleurs énormément de bêtises, mais cette langue extrêmement vivante, qui était ce qu'on a appelé l'argot, vous voyez ça encore dans des vieux films, si vous regardez le film de Chris Marker, je crois sur 68, vous entendez comment les gens parlent cette langue absolument merveilleuse, mais qui n'est pas une langue aseptisée, qui n'est pas une langue académique.
Ou Audiard.
Mais qui, absolument, il a travaillé avec eux après, c'est la génération presque d'après, Audiard. C'est une langue extrêmement riche, voilà. Et ce milieu était... Les romans policiers, ça j'aime beaucoup les romans policiers, j'aime beaucoup tout ce qui, pour moi, l'écriture d'ailleurs policière aujourd'hui est souvent une des écritures qui nous parle le plus ou le mieux du monde dans lequel nous vivons. Autant question sociale que politique que humaine, et puis les grands thèmes derrière sans fin, le bien, le mal, la justice, l'innocence, la culpabilité, enfin les grandes questions presque théologiques ou philosophiques si on veut derrière. Sont admirablement traités, je trouve, par les romans noirs. Et depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, il y a vraiment de grands auteurs de romans policiers.
Mais ça veut dire que, par exemple, est-ce que vous pouvez concevoir la philosophie aussi comme une manière de résoudre un mystère ?
Ben, ça c'est vraiment une question très 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 difficile hein, que vous posez, parce que je suis du côté de la raison. Et y compris, puisque je fais beaucoup aujourd'hui de philosophie religieuse, la question du mystère, vous savez, entre le Dieu un et la Trinité, il y a des mystères dans le christianisme, et pour une pensée juive à laquelle j'appartiens, c'est un peu irrationaliste, c'est un peu plus compliqué. Donc je n'ai pas une fascination pour le mystère, mais j'ai une fascination pour la séduction, au sens où l'entendait Baudrillard, c'est-à-dire la soustraction du visible. Ça, je crois que c'est extrêmement important de comprendre, et on retrouve Merleau. Mmh. Le lien, depuis le début, avec la question du corps, y compris pour le philosophe Merleau, m'a fasciné pour cette affaire-là. C'est-à-dire, je ne peux pas être qu'un esprit. Qu'est-ce que je fais de mon corps et cette incarnation et ce double lien ? Et la question du rapport entre le visible et l'invisible. Et donc, pour que quelque chose soit vu, quelque chose doit être caché. Et d'ailleurs... là aussi, avec les années, plus j'avance, plus je me dis, tu n'as pas assez mis en œuvre ça. Le monde de la politique est un monde de la visibilité, comme disait Foucault, de la production, du produire, du rendre visible, de l'exhibition permanente, de la parole. Mais il faut, si on ne joue pas ce jeu-là, moi je ne l'ai pas joué parfois, on vous en veut beaucoup. Le monde de la pensée, le monde de la création, et peut-être une vie humaine, hein, au sens où je l'entends en tout cas, une existence plus réussie, suppose quand même beaucoup de soustraction du visible, donc de séduction. C'est pas un mystère, mais on voit que c'est une autre façon d'entendre le mystère.
Moins on se montre, plus on séduit ?
Il faut qu'il y ait, pour que quelque chose soit vu, quelque chose qui se cache. Et je crois que c'est dans ce très beau mot de séduction, si on le prend étymologiquement, il y a plusieurs étymologies, mais il y a cette idée qu'il faut pas tout montrer. Et cette idée de pas tout montrer, je la trouve évidente dans les rapports comme ça, de séduction au sens charnel du terme, etc. Mais elle est très philosophique, elle est sans doute très esthétique, Et elle est même religieuse.
Mais vous savez ce que vous ne montrez pas ?
Ben, c'est-à-dire que je crois qu'une des grandes questions, c'est comme le silence, si vous voulez, ou c'est comme les... C'est de mieux maîtriser, en tout cas de mieux choisir ce qu'on ne montre pas. Voilà. Mais même quand on écrit...
Parce que c'est une bonne façon de barrer pour me permettez-moi de le
dire. Non, parce que je voudrais entrer... Quand vous avez écrit, vous écrivez un livre, vous avez 600 ou 700 pages de notes. Les choix que vous allez faire de toute la cuisine derrière, et finalement vous vous rendez compte souvent qu'en enlevant des choses, ça fonctionne mieux. Ou... Donc tout ce rapport à ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut soustraire, ce qu'il faut cacher, et je pourrais multiplier, là je prends cet exemple parce que je regardais les livres en fait sur la table... C'est vraiment une question que vous trouvez en permanence. Vous les trouvez dans les théologies, vous les trouvez parce qu'on était parti du mystère. Vous les trouvez aussi, je crois, enfin, me semble, en philosophie. Parce que toute la question de l'envers et l'endroit, du visible et de l'invisible, vous pouvez le prendre en psychologie, la Gestalt théorie, c'est ça. C'est pour voir quelque chose, qu'est-ce qui se cache ou comment... Et je crois que c'est vraiment une question majeure de nos existences.
Oui. Est-ce que vous pratiquez la philosophie quand vous écrivez, quand vous pensez aussi avec votre corps ?
Ben vous savez, au point que, là je lisais un auteur sur lequel je veux écrire un ouvrage dans les années qui viennent, qui disait à la fin c'est l'écriture qui portait sa vie, c'est un très vieux monsieur, il dit quand j'écris à ma table, je n'ai mal nulle part, je suis en pleine forme, j'ai toujours 20 ans, et quand je sors je me rends compte que j'ai des rhumatismes, que je... donc en réalité qu'est-ce qui se passe avec le corps à ce moment-là qui fait que à sa table d'écriture, bon pour ce philosophe juif, Joseph Salvator, tout à fait inconnu mais à mon avis fondamental, qu'est-ce qui se passe? Mais ça tout le monde l'éprouve. Donc cette union de l'âme et du corps, ou ce mix, on écrit avec son corps. Enfin, on ne peut. Moi, je n'ai jamais pu séparer les deux. Dans le fond, je crois que ma fascination pour Merleau, quand j'étais très jeune, elle est venue de ça. Je me suis finalement intéressé surtout aux pensées de l'incarnation.
Mais c'est parfois un obstacle pour penser le corps. De dormir, on doit le nourrir, il fait mal.
Ah non, dormir, il faut que vous dormiez beaucoup pour penser. Moi, je recommande à mes petits
Justement.
Enfants, à mes enfants qui font de la philo, dormez, mangez du poisson. Vos enfants dormez, font de la philo. C'est ce qu'on nous disait. Donc, il faut dormir. Moi, j'ai pas beaucoup dormi, et ça a sans doute beaucoup coûté à ma réflexion. J'aurais plus dormi, j'aurais sans doute écrit des livres plus intéressants.
Vous êtes dur avec vous-même.
Mais parce que j'ai voulu vivre de vie. Il y a une espèce de folie de comme ça, du trop plein d'énergie. Donc je voulais faire de la politique dans la journée, écrire des livres la nuit. Donc il y a un moment où vous trouvez peut-être ce que disait Merleau. Donc on fait bien ni l'un ni l'autre peut-être. Mais en tout cas, je recommande, moi pour moi c'est un peu... mais je recommande de dormir. J'ai vu qu'il y a un mouvement, je vais peut-être adhérer, pour imposer la sieste. Et ça je trouve ça très bien, je suis à fond pour la sieste.
On est pour
vous voyez,
aussi,
j'ai des grands combats.
Au chemin de la philosophie.
Mesdames, Messieurs, si comme on peut le penser, les estimations sont exactes, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle.
C'était le 21 avril 2002, au soir du premier tour des élections présidentielles. Lionel Jospin, qui avait obtenu 16,18% des voix, Jean-Marie Le Pen, 16,86% des voix, Lionel Jospin annonce son retrait de la vie politique française. Vous vous êtes retiré de la vie politique aussi, Vincent Peillon. Est-ce que de votre côté, vous avez des regrets ?
J'entendais quelqu'un qui disait je n'ai pas de regrets, je trouve ça très fort, c'est un rappeur, je trouve remarquable de pouvoir dire ça, mais il disait ça intelligemment en disant ça sert à rien, ce que disaient les sages antiques d'ailleurs, d'une certaine façon, ne regrettez pas à quoi ça sert. Ah non, moi j'ai beaucoup de regrets. J'ai des regrets, j'ai des nostalgies, j'ai des choses que j'ai pas bien faites, j'ai des phrases que je regrette, j'ai des amours qui n'ont pas eu lieu, j'ai des livres que j'ai pas lus. Donc si, je trouve que c'est court et ça m'empêche pas, c'est pas des regrets au sens où je suis là affalé sur une chaise et à pleurer sur etc. Mais je trouve que oui. On peut pas. Enfin, je suis très étonné quand quelqu'un... Je comprends qu'il y a un effort de la volonté pour dire « je ne veux pas vivre avec des regrets, ça ne sert à rien, on peut pas refaire le passé ». Très bien, ça je le comprends et j'avance. Mais non, je trouve que même c'est bien d'avoir des regrets. C'est-à-dire que pourquoi je vous dis ça ?
regardez dans l'histoire ce qui m'intéresse. Il y a eu des tas de potentialités qui n'ont pas été exploitées. Bon, pour ce qui me concerne, on ne refait pas sa vie. Mais c'est quand même ça, il y a une formidable richesse. Moi, j'ai croisé énormément de gens dans ma vie. Quand on me demande souvent, y compris sur la politique, sur des regrets, mais quelle chance ça a été. J'ai été parlementaire 20 ans, j'ai été parlementaire européen. J'ai croisé des gens dans tous les pays, dans tous les métiers. Mais j'ai des regrets. Il y a des gens avec qui j'ai pas passé assez de temps. Il y a des gens que je voulais revoir et puis ils ont eu un accident.
Mais donc c'est pas l'engagement politique que vous regrettez, c'est peut-être l'arrêt de cet engagement où se situe.
Ah non, si vous êtes sur l'engagement, non, moi, je considère qu'il y a plein de façons de s'engager. Je considère, vous savez, à 32 ans, quand j'avais 32 ans, on m'a dit, tu vas faire de la politique. Les gens pensent qu'on est programmé. Non, j'étais un prof de philo qui était très heureux d'écrire sur Merleau-Ponty.
Qu'on est venu vous chercher.
Oui, pour écrire les textes. J'ai trouvé ça très intéressant.
Donc, c'est Pierre Moscovici qui est venu vous proposer de travailler, c'est ça?
Ça a été compliqué, mais Pierre Moscovici est venu me chercher pour Jospin. Et avant, j'avais fait des discours pour d'autres. Et il y avait des bisbilles entre eux, comme vous le savez à l'époque, Fabius, Jospin. Mais enfin, on venait me chercher pour ma plume. Bon, c'était gentil, mais pas pour... Et puis, je me suis passionné pour ça. On a remonté avec Strauss-Kahn, le groupe des experts, pour Michel Rocard en 94. Ça a mobilisé mon esprit, et puis il y a eu l'élection, et puis après la lutte contre le blanchiment, refaire le Parti Socialiste, tout ça, on part dans un truc, les combats européens, mais j'ai toujours pensé, dans le fond, je n'avais absolument pas prévu ça. Donc c'est curieux quand on voit rétrospectivement sa vie, et j'ai toujours considéré, parce que ça c'est ma famille de pensée fondamentalement, que même lorsque j'étais parlementaire, parce que parfois vous êtes pris dans des tels systèmes de contraintes, j'étais pas plus politique que d'autres que j'entendais, je sais pas quoi, un professeur de philosophie qui faisait une déclaration, un journaliste, une infirmière. Et donc la politique, et surtout en démocratie, n'est pas réservée aux hommes politiques. Si vous prenez les grandes périodes historiques, je l'explique à la fin de l'éloge du politique, malgré tout ce qui est très troublant, il n'y a que 80 députés pour pas voter les pleins pouvoirs à Pétain. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui les ont votés. Mais quand vous tournez, que vous avez cette mythologie, mais c'est la mienne, c'est ma famille d'origine, et en tout cas j'ai été élevé par des gens qui avaient été pris dans les tourments de cette histoire-là, qui s'est battu? Vous allez à Grenoble, qui organise c'est une prof d'anglais du lycée, vous allez dans une femme, prof inconnu qui se lève, c'est un cheminot ici. Donc quand la politique, regardez dans les pays de l'Est qui se sont libérés, un Vaclav Havel qui pour moi est un homme immense. Vous pouvez regarder en Pologne, donc ces gens n'étaient pas des politiques au sens de l'élection. Mais lorsque l'histoire devient tragique, elle est dans son fond, elle est tragique. Les gens qui font cette politique impolitique ne sont pas nécessairement les politiques professionnelles. Donc pour moi, c'est pas du tout une gêne et ça ne m'empêchera pas de m'exprimer sur les sujets qui me tiennent à cœur.
Et bien précisément, puisque vous avez été ministre de l'Éducation et que la laïcité vous tient à cœur, cette archive devrait vous parler.
Vous avez vu.
Oui, j'ai vu cette campagne.
Cette campagne de la FCPE, qui est une association de parents d'élèves, une mère voilée qui nous dit « Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ?»
Je pense que c'est regrettable, évidemment. C'est-à-dire
Cette initiative,
il faut avoir un peu le sens de l'histoire. J'ai en tête quand même l'histoire de la Fédération des parents d'élèves. Comment elle a été créée? Elle a été fondée sur la laïcité, sur les valeurs de la République. Et à mes yeux, ça continue à être sa raison d'être, comme d'autres associations de parents d'élèves. Donc c'est extrêmement paradoxal de les voir aujourd'hui faire une campagne avec cela. Je pense que c'est une erreur de leur part. J'espère qu'ils vont la corriger.
L'actuel ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer au micro de Jean-Jacques Bourdin le 24 septembre 2019. Pour mémoire, la FCPE a diffusé en interne une affiche de campagne pour les élections des représentants de parents d'élèves défendant le droit pour les mères d'élèves musulmanes voilées à accompagner leurs enfants aux sorties scolaires. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Vincent Peillon, de l'avenir de la gauche ou de la laïcité ?
Non, je crois que la laïcité, bon, moi j'y ai consacré beaucoup de temps, mais je crois que c'est comme le mot patrie, si vous voulez. Le grand danger, si vous me laissez une minute, c'est qu'aujourd'hui ces termes sont la propriété de l'extrême droite. L'extrême droite est très laïque, remarquez-le bien. Ils ont combattu pendant des siècles. Hein. Bon. Ils sont aussi très patriotes. Vous savez qu'au 19e, le patriotisme, c'est ce qui s'oppose au nationalisme. Pourquoi je suis patriote et pas nationaliste? C'est un très beau texte publié par Buisson en 1903, mais qui reprend toute une tradition. Donc tous les gens qui ont un peu lu, qui savent qu'on est piégé par les mots, là, dans cette affaire, et qu'un certain nombre de gens, parfois de gauche, parfois de droite, parlent de laïcité, dans le même sens d'ailleurs que ces gens d'extrême droite, sans savoir de quoi il s'agit. Pourquoi j'ai écrit ce livre sur Buisson? Parce que la laïcité n'a jamais été un nouveau dogme, une intolérance, une religion. Elle s'attaque pas aux faibles, c'est exactement l'inverse. Donc, tous ces gens parlent de laïcité, la défendent de façon, j'entends,
Ils font pareil avec le patriotisme, ou le lire, écrire, compter. Vous savez, en disant Jules Ferry, l'école de la République, c'était lire, écrire, compter. Jules Ferry écrit exactement l'inverse. Il va devant les congrès d'instituteurs en disant il faut donner à tous les enfants de la nation le meilleur de la culture, bien sûr le lire, écrire, compter, mais la réflexion, la science, l'art, etc. Donc il y a des gens, de gauche comme de droite, qui se proclament républicains en ignorant ce que la doctrine républicaine, qui ont fait le lit. Tant mieux, d'une extrême droite qui aujourd'hui confond laïcité et anti-musulman. On a vu des débordements récemment, mène des combats d'un courage formidable hein, contre Mère Voilée. Il faut voir la photo. Hein. Donc tout ça me semble ridicule. C'est difficile d'être ministre de l'Éducation.
Donc la photo, juste pour rappeler quand même les choses, c'est qu'une femme voilée apparaît sur une image avec un enfant, disant « Moi aussi, je peux aller chercher votre enfant à l'école. »
Oui. Mon vrai décrochage... mais n'oubliez jamais ce que je ne cesse de vous dire, et que j'étais heureux de lire des éditoriaux ce matin où ils le disent par rapport aux affaires Zemmour. Moi, j'ai mon histoire familiale, et j'essaie de tenir un certain nombre de valeurs, d'un juif laïque, on va dire, si on veut, rationnel et philosophe. Mais la vérité de cette affaire, c'est que j'ai refusé le débat avec Marine Le Pen en 2007 ou 2008, lorsque Sarko fait le ministère de l'Identité nationale et de l'Immigration. Parce que ça me rappelle les pires heures de notre histoire. Et je pense que ce cycle continue d'avancer, avec un certain nombre de gens dont c'est la pensée naturelle.
Mais vous refusez le débat avec Marine Le Pen à ce moment-là ?
Oui, parce que je vois bien que...
Comme Jacques Chirac refuse le débat avec Jean-Marie Le Pen en 2002.
Et je vois tout le monde dire... Hier, j'entends des journalistes, si je peux revenir, qui disent « Oui, faut avoir le courage de parler de l'immigration dans ce pays, on n'a pas le courage, donc on est... »
Non, mais surtout d'apporter la contradiction avec ceux avec lesquels
on laisse à l'extrême droite. Mais enfin, on a fait 25 lois, on ne parle que de ça depuis 25 ans, depuis les lois Debré. Donc on se laisse dominer depuis 25 ans par un agenda identitaire, raciste, anti-laïque, justement, parce que incapable d'accueillir dans le respect toutes les religions. Vous savez, quand on fait la laïcité, pour ceux qui la connaissent, et pas ceux qui s'en réclament aujourd'hui, on évite qui l'a fait ? Les protestants libéraux, Jaurès. Et ils disent toujours, elle n'est pas anti-religieuse. On ne va pas décrocher les crucifix dans les écoles pour pas provoquer de problèmes. Les devoirs envers Dieu sont enseignés jusqu'en 1923 dans les instructions officielles. Donc on a un certain nombre d'ignorants à qui on donne des responsabilités, dont on nous fait croire d'ailleurs qu'ils connaissent ce dont ils parlent, ils n'y connaissent rien.
Et donc quelle est votre position en fait vraiment sur la laïcité ?
C'est la laïcité. C'est la laïcité, c'est-à-dire que la laïcité, c'est la coexistence pacifique de croyances qui ne doivent pas intervenir dans l'espace public, dès lors évidemment qu'elles sont agressives. Mais c'est le respect
donc,
aussi.
Donc par exemple, le port du voile, c'est considéré comme un signe agressif ou
pas ? Mais non, jamais. Ce n'est que par qui ?
Donc il n'y a pas de problème. Donc pour vous, la
Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il n'y en aura pas, sauf médiatiquement ou pour faire grossir les rangs de l'extrême droite. Car si vous allez en Seine-Saint-Denis, si vous regardez qui sont ces maires, quelqu'un veut porter un signe, quel qu'il soit, dès lors qu'il n'est pas agressif, qu'il n'empêche pas les autres de penser ce qu'ils veulent et qu'il n'intervient pas dans des fonctions. En plus, on a un droit. Et moi, je recommande, y compris à ceux qui sont en fonction, de respecter le droit. Le droit n'interdit pas ça. Bon. Donc, on va créer des querelles entre Français qui sont, à mon avis, un petit peu inutiles, qui animent un milieu assez décontextualisé. Mais derrière, on a quelque chose de beaucoup plus profond sur lequel je reviendrai dans les mois qui viennent, qui est qu'on fait passer la République pour ce qu'elle n'est pas. Les républicains en France, ils sont nationalistes. C'est effrayant. La République a toujours été européiste en France. Elle a toujours été cosmopolitique. Elle a toujours été... C'est ça le vrai concept. On fait passer la laïcité pour quelque chose d'anti-religieux. Elle a toujours au contraire veillé à défendre les religions minoritaires, je vous rappelle. Et celles qui sont le plus en difficulté. Y compris avec une vision derrière qui est une vision sociale. Parce que les logiques de domination, elles interviennent là aussi. Il y a des textes magnifiques de la Ligue des droits de l'homme au début du siècle, des artisans de la laïcité, c'est-à-dire Jaurès, c'est-à-dire Buisson, c'est-à-dire Célestin Bouglé. Tous ces gens sont totalement ignorants. Ceux-mêmes qui étaient aux responsabilités sont très attentifs. Imaginez les devoirs envers Dieu jusque 1923, les devoirs envers Dieu dans le programme.
Quand vous étiez représentant politique ou même ministre de l'Éducation, est-ce que vous vous sentiez en mesure de faire appliquer ce en quoi vous croyez ? Est-ce qu'il n'y a pas une frustration ? De toute façon, une fois qu'on est dans la machine politique, on voit bien qu'on est broyé et que vos idéaux ici et les définitions que vous proposez, finalement, s'avérerait peut-être être inapplicable.
Il y a une surenchère, si vous voulez. Moi, j'ai fait la charte de la laïcité, j'ai rétabli l'instruction morale et civique, je voulais que... Bon, c'est moi qui ai fait tout ça. Après, les autres ont voulu s'inscrire et font comme si, à chaque fois, ils réinventaient le pareil sur la sécurité. Tout ça n'a pour moi pas beaucoup d'importance. Je voyais sur les décrocheurs-là, on a quand même reconnu qu'on les avait baissés par deux fois en deux ans.
Moi, je suis passé à autre chose. Mais là, on parle d'un autre sujet, pas de ma pratique de l'éducation nationale ou du ministère que j'ai aimé. Et pour moi, c'est important, parce qu'on a construit la nation autour de l'école et la République autour de l'école. Mais on parle de ce sujet, puisque vous avez voulu en parler, de la laïcité. Et je suis très inquiet de voir les dérives, si vous voulez, d'une espèce d'orthodoxie à rebours, comme disait Buisson, de gens qui sont un peu ignorants, je suis obligé de le dire, comme un spécialiste de ce qu'a été la laïcité, de comment elle s'est mise en œuvre, des valeurs qu'elle porte, mais qui sont très intransigeants avec certaines catégories de la population et qui en font un débat qui est aisément récupérable immédiatement derrière par des gens qui n'ont quand même pas été ceux qui ont fait la laïcité dans ce pays, c'est l'extrême droite française. Vous qui êtes philosophe, partez de cette interrogation, l'étonnement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les grands laïcs soient Marine Le Pen qui se revendique toute la journée de la laïcité comme elle se revendique du patriotisme? Il y a un siècle, la valeur patriotique ou la valeur laïque n'appartenait pas au camp de l'extrême droite, qui les ont toujours combattus. Voilà,
l'extrême droite n'a pas le monopole de la laïcité non plus, en France.
Bah, j'ai quand même l'impression que c'est autour de ces thèses, comme sur l'immigration, que le débat tourne depuis un moment. Et je reviens à ce que disaient les journalistes. Oser dire aujourd'hui, on n'ose pas parler de l'immigration dans ce pays, alors qu'on ne parle que de ça depuis 25 ans, c'est quand même un degré d'abrutissement et de cécité intellectuelle qui est troublant. Mais on voit où ça peut nous conduire.
En tout cas, on voit où ça vous a conduit. Vous n'êtes plus actif en politique. Vous avez encore beaucoup de choses à en dire. Merci beaucoup, Vincent Peillon, d'être venu nous parler de vous, philosophe, et vous, homme politique, ce
matin.
Merci
à vous.
On va se quitter avec un dernier choix de votre part, un choix musical, le concert spirituel de Monteverdi. Le voici. Concert spirituel de Monteverdi interprété par René Jacobs à Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Le vendredi, comme chaque semaine, c'est votre anti-manuel de philosophie.
Les injonctions pour aller mieux ne manquent pas et elles sont d'autant plus plébiscitées quand elles sont mises à la sauce philosophique. Aujourd'hui, j'aimerais ainsi vous parler de l'amour de soi, s'aimer soi-même. Vous avez sûrement déjà entendu ça quelque part. S'aimer soi-même serait la condition pour aimer les autres, aimer la vie, aimer tout court. On pourrait même voir l'amour de soi comme la condition sine qua non. Et oui, on ne saurait prendre son temps, positiver ou cultiver sa fragilité qu'en étant sûr de soi. Mais qui est ce soi dont on parle et pourquoi devrais-je tant l'aimer? N'est-ce pas déjà le cas?
Je m'aime, je ne me sens jamais seul. Je m'aime, je me tiens compagnie. Ma glace, quand un autre regarde, grimace. Mais moi, elle me sourit.
S'aimer soi-même, l'idée simple, a priori simple, facile, évidente. Excepté l'adolescence et les textes de Rousseau sur l'amour propre, je dois dire que je vois peu de moments où la question s'est réellement posée. C'est même plutôt l'inverse que l'on entend, sans cesse mise en garde pour notre narcissisme. Trop ou pas assez amoureux de nous, c'est à devenir chèvre. Pourtant, avoir l'importante production sur le sujet, l'amour de soi ne semble pas aussi facile que ça. Pour preuve, il y a quelques jours, alors en pleine discussion avec un ami célibataire et malheureux de l'être, j'entends celui-ci me dire
« Qui voudrait de moi, de toute façon, je suis petit, chiant et mes cheveux manquent de volume. »
Et moi de lui répondre
« Mais tu sais, pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. »
D'où m'était donc venue cette idée, à croire que l'air du temps est vraiment à l'amour de soi, puisque sans y avoir réfléchi, c'est pourtant ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit. Pourquoi donc cette distorsion entre le cliché du s'aimer soi-même, facile et accepté par tous, et la difficulté pourtant à le faire et même à le définir ?
Peut-on aimer l'autre quand on ne s'aime pas soi-même ? On revient un petit peu à la notion d'amour de soi. Qu'est-ce que c'est exactement, finalement, l'amour de soi ?
Alors, l'amour de soi, c'est finalement toutes les pensées qu'on nourrit vis-à-vis de soi-même.
D'accord.
C'est l'idée qu'on se crée de soi.
Ce qui m'interpelle tout de suite avec cette définition, c'est que pour moi, l'amour ne relève pas que de l'idée ou de soi. Déjà, première chose, quand je tombe amoureuse de quelqu'un, je tombe littéralement d'amour, malgré moi. Certes, je tombe peut-être sous le coup d'une idée faussée, peut-être reconstruite, créée à partir de mes fantasmes et ce que je crois voir de la personne adorée, mais je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de réfléchi. Ensuite, deuxième chose, qui est donc ce soi que je devrais aimer ? Je reprends mon exemple. Quand je tombe amoureuse de quelqu'un, je tombe amoureuse de quelqu'un que j'aime, peut-être parce qu'il me renvoie une image aimable de moi, mais cet autre est quand même bien là. Ce n'est pas moi avec moi qui fait le lien, toute seule. À ce double titre, s'aimer soi-même me semble vraiment compliqué. Je devrais non seulement me dédoubler tout en restant avec moi-même, mais en plus je devrais tenter de créer un mouvement a priori spontané. Eh bien c'est impossible. Logiquement, intellectuellement et physiquement, je ne vais pas me prendre dans les bras, je ne vais pas me persuader que je suis géniale, il me reste peut-être la masturbation, mais peut-on vraiment parler d'amour de soi ?
Je vais te donner dans cette vidéo des moyens, des manières d'augmenter la valeur perçue, le jugement que tu as sur toi-même, donc d'augmenter ton estime de soi. Comment on va faire ça ? Ben, tout simplement en utilisant le socle de l'estime de soi, de la considération que tu as pour toi-même, à savoir l'amour de soi, l'amour que tu te portes à toi-même.
Pour dépasser l'alternative entre un amour de soi inquestionnable, donné, évident, et un amour de soi impossible, qui sous-entendrait carrément que l'on est, au mieux, incapable d'être aimé par un autre, au pire, dans la haine de soi, plusieurs tutoriels, comme celui qu'on vient d'entendre, sont disponibles. Ils consistent tous à se voir en face, avec ses défauts et ses qualités, ce qui me pose vraiment un problème. Parce qu'au fond, il y a toujours cette idée de réflexion. On doit se réfléchir soi-même, dans le double sens de se regarder et de se penser. On doit se décomposer, on doit s'analyser, on devient son propre objet d'étude, avec tout ce que ça comporte d'erreurs, d'illusions et de solipsisme. Et avec une prétention, tout dire de soi, faire la lumière sur tout, être totalement transparent. Mais quelle horreur, je ne veux pas m'aimer moi-même comme ça, c'est-à-dire totalement, en toute transparence. Je veux rester dans le déni, dans l'inconscience, dans le rêve. Je suis déjà moi-même tout le temps, que demander de plus ?
Mais nous on vous aime Géraldine, vous savez ?
Alors je vous aime aussi.
Bon, on peut vous réécouter sur le site du journal de la Philo. Et puisqu'on est dans les déclarations d'amour, merci et reconnaissance infinie à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier en compagnie d'Isis Jourda, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Thomas Beau qui réalisent cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jérémy Kaufmann. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série des Chemins de la Philosophie. Dès lundi, on vous parlera d'excès. En philosophie, en littérature, on parlera de Françoise Sagan, de drogue, de Francis Bacon, d'Aristote et de Platon. C'est le programme excessif de la semaine prochaine. D'ici là, restez prudents, réécoutez cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, où l'équipe des Chemins de la Philosophie, encore eux, anime un compte sur chacun de ces réseaux et on attend vos remarques et vos commentaires auxquels on sera ravis de répondre. À lundi donc, 10h, d'ici là, bon week-end et surtout, restez à l'écoute sur France Culture.